Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégral Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterfoot, la 19e nuit de l'After qui démarre en direct des États-Unis, en direct de notre studio new-yorkais. L'After est sur RMC, l'After est sur la chaîne YouTube, évidemment de l'Afterfoot. On est là jusqu'à 5h du matin avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Monde dans l'After, toujours première Radio de France, avec Daniel Riolo qui est avec moi. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gontreux est là également. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
Fabrice Hawkins également avec nous. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
Fabrice qui suit l'équipe de France. Comme l'équipe de France est à New York, Fabrice est à New York.
Et c'est un plaisir.
C'est un syllogisme.
Où pourrait être le faucon si ce n'est au plus près de l'événement?
Bien sûr.
Et là, surtout, il y a les proies qui sont en dessous. Et surtout, lui, il rôde au-dessus et il attaque.
Surtout au 14e étage. Le faucon vole à 42 mètres minimum.
Et oui, nous sommes au 14e étage avec vue magnifique. Allez sur la chaîne YouTube, vue sur Manhattan. Et derrière nous, à 21h30, tout à l'heure, il y aura l'actualité de l'équipe de France. Justement, avec toi, Fabrice, à la veille de son match face à la Suède, nous allons dans quelques instants analyser la qualif du Brésil demain face au Japon. Et puis, d'ici une heure environ, un peu plus, vous saurez tout du match Allemagne-Paraguay qui démarre tout à l'heure à 22h30. Et oui, parce qu'il y a deux matchs à venir. Ce soir et cette nuit, Allemagne-Paraguay à 22h30 et Pays-Bas-Maroc à 3h du matin cette nuit. Voilà pour le programme à venir jusqu'à 5h.
Dans les petites news du jour, nous n'oublions pas, pardonne-moi, une petite parenthèse, la loi sur la réforme de la gouvernance du football et du sport français a été votée il y a 10 minutes.
Donc elle a été...
moment très important.
Donc oui, elle a été validée,
adoptée. Une immense majorité.
Adoptée.
Immense majorité. Maintenant, c'est commission mixte paritaire pour 2-3 amendements à revoir et c'est bon. Énorme gifle pour Vincent Labrune et ses amis bien identifiés qu'on connaît tous.
Le Brésil se qualifie 2-1 face au Japon. Les gars, but marqué dans les ultimes secondes par les Brésiliens, par Martinelli à la 96e. On va pouvoir entendre peut-être Carlo Ancelotti dans quelques instants, sa première réaction en direct. C'était un match plutôt sympa avec des Japonais qui... tout tenté jusqu'au bout. Enfin, ils ont joué leur jeu, mais le Brésilien était plus fort. Même les stats sont en leur faveur.
Ouais, les stats,
bon, c'est logique au final.
Très logique au final, parce que c'est un Japon, certes, moi, que j'aime beaucoup, mais qui est courageux et mais très limité quand même. 70-30 en possession, 17 occasions à 3, 19 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 2. Rien à dire, le Brésil méritait sa victoire. Mais ils étaient partis pour un truc bien plus galère. Et il y a quand même pas mal de soucis qui étaient identifiés, qui sont remontés, notamment au milieu de terrain. Après, le changement de Carlo quand même de Carlo Ancelotti à la mi-temps en faisant sortir un milieu de terrain a fait aussi un peu la diff. Donc victoire logique au final, quoi, victoire logique.
Puisque tu parles de Carlo Ancelotti, il y a quand même eu un moment dans le match.
Ah tiens, Ancelotti en direct, on va traduire en direct.
Sur
l'espagnol.
Cajamos goles, ma l'équipe non nous perdió la paciencia.
Ils ont eu de la patience.
Donc on a été patient.
L'équipe était bien, también.
L'équipe était bien.
La première partie, le jeu fue bonito, forcément.
Le jeu était très bien pour la mi-temps.
La seconde partie,
bonito, c'est pas très bien, c'est pas mal.
Você mantém o Casemiro, ele faz
le
gol,
fait qu'il
você coloca o
Casemiro qui a pris un jaune.
É um grupo completo que ajuda a seleção brasileira.
Temos muitos recursos no banco.
On a beaucoup de ressources sur le banc.
É bom que os jogadores individualmente estão a um bom nível. Trabalham.
São tous à bom nível.
E como que está o Lucas Paquetá? Como que está o Casemiro?
Parle de Paquetá qui est blessé.
Acho que on peut s'en passer d'explication.
Partiu muito exigente.
Il mélange trois langues et c'est un peu dur.
Ah oui, il y a du muito, ouais, effectivement, il mélange toutes les langues.
Il fait un peu un mix d'italien et d'espagnol et de portugais.
La última, vous connaissez la torcida brasileira, porque o sim para o Hendrick e o não para o Neymar.
C'est bon, stop.
On écoute en coulisses si jamais il y a un petit. Attends, peut-être sur Neymar quand même.
Estava. Falei con ele, se não vamos a empatar o jogo. Entrava à minuto 60.
Il serait rentré 65. S'il y avait eu match tenu et prolongation, il serait rentré.
Hemos empatado o jogo, não queria mudar a estrutura porque l'équipe tenait contrôle de jeu. Ouais,
il y avait une équipe à garder et donc je voulais garder cet équilibre jusqu'au bout. Voilà pourquoi il n'a pas fait rentrer Neymar.
Juste sur ce qu'il vient de dire et juste avant, quand il y a beaucoup de ressources sur le banc mais qui n'utilise pas Neymar et qui justifie ça, je pense qu'il va jongler avec tout ça. Il l'utilise quand même le moins possible. Il y avait quand même un money time dans lequel il ne l'a pas fait entrer, quoi qu'il en dise, et c'est quand même un message par rapport à ce qu'on avait vu au dernier match. Neymar n'est pas au niveau pour jouer.
Le scénario, elle donnait raison en l'occurrence.
Bien sûr, mais il n'a pas envie de le faire jouer, mais il est obligé de dire pour la Vox Populi brésilienne, oui, bien sûr, il serait entré s'il y avait eu prolongue et tout, alors qu'en gros, Neymar, il n'en a pas besoin pour l'instant pour faire gagner le Brésil.
Ancelotti, sur le banc, c'est plutôt habituellement quelqu'un de serein. C'est en tout cas souvent une des qualités de management qu'on a mis en avant chez lui, de garder ce calme pour le transmettre à ses joueurs, même dans les situations critiques. Au début de la seconde période, j'ai vu sa tronche. La sérénité habituelle, je trouve, n'était pas forcément là à 100%. Le chewing-gum était en train de morfler bien comme il faut. Je pense qu'il a cru à un moment entrer dans une sorte de scénario un peu catastrophique avec le braquage, parce que ça aurait été un braquage si les Japonais l'avaient emporté. Je ne sais pas s'il a été totalement calme. Maintenant, il l'a été assez pour faire les bons changements. Et évidemment, Flo a parfaitement raison. Il n'y a rien à redire à la qualification du Brésil. Ça a été un match à sens unique. On est dans les 16e de finale que j'appelle déséquilibré. Ce match-là ne faisait pas partie des 6-7 que j'estime indécis sur 16. Le Brésil a gagné et c'est tout à fait logique. Et la Coupe du Monde du Brésil, parce que pour l'instant, ils n'ont joué, à part dans leur premier match contre le Maroc, ils n'ont joué personne. En revanche, là, dès l'8e, le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège, là, d'un coup, puisqu'on parlait de tours et d'étages tout à l'heure, là, ils vont prendre 10 étages d'un coup, parce que ce sera pas du tout, la même histoire. Ce sera pas une équipe qui voudra attendre. Ce sera beaucoup plus solide, plus fort techniquement, plus fort physiquement. Ce sera plus fort à tous les niveaux. Et le Brésil va commencer sa Coupe du Monde en 8e de finale. Et sur ce qu'on voit là, je suis pas méga confiant quand même. Je sais pas si cette équipe peut monter en puissance. J'en sais rien. Le milieu de terrain, c'est toujours aussi peu convaincant à mes yeux. Devant, ça repose beaucoup sur ce que Vinicius peut faire dans l'élimination, la percussion.
Ou pas.
J'ai pas vu.
Enfin,
ou pas.
Ou ce qui ne
j'ai,
pas.
J'ai vu toujours un Matheus Cunha actif, mais bon, c'est pas non plus
limité.
Une vedette. Ryan, quasi, si c'est pas inexistant, très, très, très transparent.
Casper.
Donc en fait, ce qu'on dit du Brésil depuis le début, on pourrait le redire là, même après la qualification en huitième de finale.
On avait critiqué Casemiro après le premier match, rappelez-vous,
il était mauvais.
Là, il prend un carton à la 14e. Tu dis qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va le sortir finalement, il égalise.
Oui, mais ça d'accord, l'égalisation. Plus paquet est très belle. Mais après, son rôle à lui, au milieu de terrain, il fait une mauvaise première période sur la passe de Danilo qui a intercepté, qui amène au but japonais. C'est Casemiro qui est derrière. Donc il fait pas un des bons débuts de Coupe du Monde. T'as raison Gilbert. En fait, ou Daniel, pardon, on a les mêmes failles identifiées et rien, et il n'y a pas de raison que ces failles-là se rebouchent. Il n'y a pas de raison particulière. C'est pas comme quand un joueur revient de blessure ou revient à son meilleur niveau. Le vrai problème du Brésil, il est identifié. L'attaque qu'il a trouvée, c'est sans doute une des meilleures attaques là par rapport à son effectif actuel. Mais Ryan, qui est un jeune, qui n'a pas d'expérience, quand tu arrives dans les matchs comme ça importants, comme on disait, quand la pente s'élève, ça va être sans doute un peu juste. Donc, en fait, ce Brésil-là, il passe très juste contre un Japon faible, parce qu'on avait vu un Brésil faible dès le début de la compétition, et on le sait pour son histoire récente. Et donc, ce sera effectivement très compliqué. C'est pas un Brésil, en gros, qui va aller au bout, pour faire simple.
Il manque du talent, Fabrice. Concrètement, et on l'a vu depuis le début de cette compétition, c'est pas le Brésil d'il y a encore quelques années. Hein, à toutes les lignes, il y a des joueurs qui sont pas mal, Gabriel, même Marquinhos. On voit Lucas Paqueta devant, il y a Vinicius. Mais quand on regarde globalement les matchs et le contenu et ce que peuvent faire les joueurs ensemble, parce que c'est important aussi ce jeu ensemble, c'est insuffisant. Et clairement, je pense que quand ils vont tomber contre une équipe un petit peu plus costaude, ça risque d'être très compliqué. Dès le prochain tour, je crois qu'ils jouent contre la Norvège.
Norvège-Côte d'Ivoire, pour moi,
ça va être très dur pour eux. Pour le Brésil. Et je voulais ajouter d'ailleurs que même s'ils ont gagné, ça reste quand même une victoire à l'arraché à la dernière minute. Et à mon sens, avant les demi-finales, je pense qu'on va avoir beaucoup de matchs comme ça où ça va être très 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 serré.
Et surtout, on en a quelques-uns qui sont, comme je disais tout à l'heure, déséquilibrés et qui peuvent avoir ce scénar-là. C'est-à-dire une équipe qui attaque tout le temps, une autre qui cherche à défendre. Maintenant, encore une fois, ils méritent largement de passer. La dernière action, à la 94e, il fallait avoir la lucidité et c'est Guimarães qui fait une passe somptueuse.
Qui est le meilleur au milieu d'ailleurs globalement depuis très le début belle, de la Coupe du Monde.
Très belle finition de Martinelli. On a vu une très belle action pour finir ce match qui était intéressant parce que le scénario a rendu intéressant, le faible a marqué, l'autre devait attaquer, donc c'est ça qui nous a tenu en éveil, en se disant « Ah, et si l'exploit venait ?» tout ça. Maintenant, on n'est pas dans un match où tu as une vraie opposition. C'est le gros contre le petit avec... comme quand on a les matchs de Coupe de France entre le gros et le faible, que peut-il se passer? Est-ce qu'il peut y avoir un braquage? Voilà.
Avec un très bon match de Suzuki, le gardien japonais, ce qui donc confirme, si tu veux, la sensation et de la chance. Parce qu'attention, avant d'avoir ce but à l'arrache,
c'est fiable, hein.
Suzuki, c'est très fiable. Il y a rien à changer. Et c'est vrai que avant, il y a eu sauvetage sur la ligne, miraculeux. Il y a eu poteau, même s'il y avait parade de Suzuki en l'occurrence. Il y a quand même eu beaucoup. Enfin, il y a eu des occasions. En plus, on peut pas dire que le Brésil a été atone. En revanche, c'est comme disait Fabrice, c'est pas tant dans le fait que cette équipe puisse ou pas marquer. Puisqu'on le sait qu'avec Vinicius, elle peut marquer. On sait que même avec Hendrik, sur un exploit, ils peuvent marquer. C'est sur la qualité du jeu collectif. C'est sur ce qu'ils faisaient avant dans les lancements de jeu, notamment par les latéraux qui, historiquement, ont toujours été très forts au Brésil. Ça n'existe plus. Donc, c'est quand même un point capital. Et derrière, tu as en plus une faiblesse, on va dire, sur la récupération. Et ils ont été quand même embêtés, pour ceux qui l'ont vu ce soir, par le pressing, quand il y en avait des Japonais. Ça veut dire que dès qu'il y aura une équipe.
Il y en a eu longtemps, parce que franchement, ils sont.
Physiquement,
ils se sont bien battus pour défendre leur but là. Moi, très honnêtement, je dois avouer qu'à la mi-temps, je voyais le Brésil très mal embarqué. Hein. Les Japonais défendaient tellement bien. Bon, l'égalisation est venue sur un marquage un peu léger sur coup de pied arrêté, mais je les voyais capables de résister très longtemps. Hein. Ça défendait fort, quoi.
Roberto est là au 32-16 pour parler de la qualification brésilienne. Roberto, bonsoir.
Bonsoir l'équipe.
Bonsoir Roberto.
Écoute, pareillement. T'as tremblé un peu, t'as eu peur ou pas?
Ah oui, je pense.
J'étais pas étonné. Je suis plutôt étonné qu'on a gagné, mais j'étais pas étonné. Ces milieux de terrain du Brésil, c'était compliqué. Casemiro, je ne sais pas c'est qui a dit tout à l'heure. Au but du Japon, je le voyais avec sa trottinette derrière en train de marcher. Il n'a pas suivi l'action. Ça m'a désespéré. On a un problème. Ce problème, c'est milieu de terrain. Les joueurs, ils sont presque à la fin de la Coupe du Monde. Certains ne sont pas prêts physiquement. Ou ils ne seront jamais. Après, on prend la victoire, hein, comme tous les Brésiliens. On accepte la victoire. Hein, mais c'est... Après, j'étais surpris aussi pour le football du Japon, qui jusqu'à maintenant a attaqué, était un football très agressif. Et là, ça nous a arrangé les choses, en fait. Mmh. Ça nous a arrangé les choses. Avec l'entrée de Hendrik, qui n'a pas donné grand-chose.
Ouais, très discret, Hendrik, ouais.
Si Vinicius s'y blesse, là, par contre, on est très mal barré. Il faut,
il faut
prier pour qu'il lui reste jusqu'à la fin, parce que à part Vinicius, je vois pas.
Après, Martinelli est entré, il a été bien. C'est également un joueur de côté qui percute Martinelli, mais c'est plus un joueur, on va dire, pour que Martinelli brille vraiment. Il faut un collectif huilé. C'est pas le gars qui va forcément. Vaut mieux quand on a collectivement des faiblesses comme celle du Brésil. Il vaut mieux avoir un mec comme Vinicius avec son caractère un peu individualiste et en solo faire des décisions si le reste de l'équipe travaille un petit peu, quoi. Martinelli, il faut déjà beaucoup plus une équipe un peu rodée collectivement.
Je suis d'accord avec vous, mais avant le Brésil, chaque attaquant brésilien, il allait défier, il allait dribbler, il allait au contact. Et là, c'est arrêt total, quoi. Je les viens derrière.
Sauf Vinicius qui quand même. Il l'a fait. Il a une action incroyable. Ouais, il commence par petit pont sur le premier défenseur qui est en face de lui. Et derrière, ça termine, je crois, par un arrêt de
mais ça, s'il marque là, ce serait un début de la Coupe du Monde.
Ça, c'est pas donné à tout le monde. Avant, le Brésil avait 2, 3, 4 joueurs qui pouvaient le faire. Aujourd'hui, il y a quasiment que Vinicius qui peut dribbler 3 joueurs.
Il y a quand même une équation qui est insoluble, à mon avis, pour Carlo Ancelotti. C'est effectivement celle du milieu, comme disait Roberto. On l'a évidemment dit depuis le début de la compétition. Insoluble parce que si on avait le fameux Neymar qui revenait de blessure mais était au top, tu pourrais te dire tiens, à un moment donné tu vas avoir dans la compète un vrai ajout et tu vas réorganiser éventuellement ton milieu, mais c'est pas le cas en fait, et là il l'a prouvé en ne le faisant pas rentrer. Donc il a effectivement la possibilité.
Neymar n'a jamais été milieu de terrain,
non, mais il aurait pu enlever un milieu.
Neymar c'est dans un 4-3-3, un gars dans la ligne du haut, hein.
Tu peux enlever un milieu si tu veux et avoir une autre, je veux bien,
mais va falloir être costaud quand même, hein.
Ouais, mais à mon avis,
si tu mets Neymar en vrai 10 avec une ligne de 3 devant lui, va falloir que les deux bosser.
que je voulais dire justement, c'est que ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'il ne peut pas compter sur ça.
Ah, d'accord.
Pour là, mettre, ça, oui. Il peut pas compter sur ça. Alors, et donc, il n'a pas de ressources autres que faire entrer qui Fabinho à la place de Casemiro. Ça ne fait quand même pas rêver. Et effectivement, Martinelli, bon, qui est pas non plus un immense joueur, quoi. Ouais, ok, il a été très, très adroit sur le but. Donc, en fait, il n'a pas beaucoup d'autres, de tout ce qu'on a vu là depuis le début. Il a des solutions pires. On a vu des latéraux pires que ceux qu'on a vus là. Il a un Casemiro qui maintient contre vents et marées parce qu'il n'a pas beaucoup mieux. Je comprends aussi pourquoi il le fait. Et puis devant, ben voilà, il a Vinicius. Puis derrière, on a vu que même Cunha, là, quand la pente s'élève, et Ryan n'ont pas été au niveau. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant pour la suite, en tout cas.
Roberto, Neymar qui n'est pas rentré, ça te satisfait ou tu aurais bien aimé le voir ?
Ah non, je suis content. Où on va les mettre dans un match compliqué comme ça? Déjà, on a du mal avec les joueurs qui marquent pas et qui c'est un milieu qui était fragile. Et si on met un gars qui est handicapé, qui court pas, malgré tous les Neymar, non, c'est pas possible. Au contraire, je félicite Ancelotti de savoir gérer Neymar parce qu'il a son ego. Mais là, le match contre le Japon, s'il y avait 2-3-0 pour le Brésil, oui, il pouvait avoir 10-15 minutes de jeu. Mais là, un match compliqué comme ça, non, on peut pas se permettre de tous les Neymar qui peut être de les mettre dans un match comme ça. C'est pas possible.
Et tu as vu Roberto, je sais pas si cette vidéo est virale, je le pense, au Brésil, du fils d'Ancelotti qui fait la moue quand son père fait entrer Neymar la dernière fois. À la 76e. Et déjà, Ancelotti avait attendu tard que le score soit fait, bien tardivement. Là, il dit encore dans sa déclat d'après match, oui, j'avais prévu de le faire entrer. Tout ça, c'est pour ménager un peu le nez lui-même et sa susceptibilité, sans doute. Mais t'avais vu, Roberto, cette image du fils d'Ancelotti qui semblait pas d'accord avec l'entrée de Neymar?
Oui, cette vidéo, elle est virale. Je pense qu'en France, au Brésil et partout dans le monde. Hein. Il a raison, le fils. Hein. Mais après, c'est compliqué qu'on ait géré un gars comme Neymar comme ça, parce qu'il a une influence très, très forte dans le vestiaire. C'est très compliqué. Mais je pense pas que Neymar, à part sur le Brésil, les prochains matchs, il y a 2 buts d'avance. Je pense pas qu'on verra Neymar dans les prochains matchs.
Mais c'est vrai que toi, tu considères qu'il fallait pas le prendre? Fallait pas l'emmener à la Coupe du Monde?
Ah oui, moi je suis le fidèle supporter de que Neymar ne devait pas venir à la Coupe du Monde, c'est sûr. Hein. On devait le laisser là-bas en train de faire du poker au Brésil, tranquille. et n'importe, vous savez, quand on part à la guerre, il faut avoir des soldats solides. Et au Brésil, même si on n'a pas des stars, il faut des joueurs capables de courir 90 minutes, voire 100 minutes comme aujourd'hui. Et voilà, Neymar n'est pas apte, c'est tout.
Est-ce que c'est pas positif, mine de rien, de l'avoir dans le groupe? C'est une question, j'ai pas la réponse, mais s'il fait n'importe quoi dans le groupe, c'est différent que s'il amène une énergie positive.
Vous êtes des professionnels de la radio, vous connaissez le football, vous savez très bien que Neymar, il a toujours eu un côté obscur dans le vestiaire quand il était contrarié. C'est ce qui me fait peur, c'est ça.
Sauf que il y a un deal avec Ancelotti.
Là, il vient, il sait qu'il va pas jouer.
Voilà, il sait que Ancelotti, ce deal existe, c'est-à-dire que t'es pas sûr de jouer, il y a pas de priorité, etc. Et il l'a dit qu'il acceptait ce deal, et on le voit d'ailleurs jouer le jeu, conseiller les autres, il est souriant, effectivement, il a l'air d'accepter tout ça.
Je suis d'accord avec vous, mais imaginons si le Brésil était éliminé aujourd'hui, je pouvais parier que demain Neymar, il était dans tous les réseaux sociaux et avec tous les journalistes en train de descendre Ancelotti, parce que là le contrat il était fini après. Il n'y avait plus d'accord.
Après, une fois que c'est fini, c'est fini.
Oui, mais c'est pas à cause de Neymar. Voilà, il aurait été viré tout simplement pour manque de résultats. Voilà, Neymar serait parti, il serait probablement déjà une table à Vegas et tout le monde penserait à autre chose.
Roberto, voilà. Merci beaucoup en tout cas, c'était sympa de t'avoir. Il y a un autre joueur que t'as bien aimé là, que tu veux citer ou que t'as pas aimé et qui t'a énervé? On a parlé d'Hendrick.
Vinicius, pour moi, c'est 9 sur 10. Et après,
il a failli d'ailleurs mettre le but du tournoi.
Voilà, Casemiro, ce mec, il a une étoile parce que c'est pas possible. Il marche pour le but du Japon et après, il arrive à marquer un but pour égaliser. Ah
bah, pour aller mettre une tête au deuxième poteau, t'as pas besoin de faire un sprint de 50 mètres. Hein.
Mais sinon, Casemiro et Paqueta, pour moi, ça fait partie du flop de ce match de Brésil, encore une fois.
C'est Guimarães qui tient la baraque.
Merci Roberto, bonne soirée.
Très juste. Merci la team, continuez comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup. Merci,
salut.
Quel bel accent.
Ouais, c'est vrai que c'est
similaire à celui de Rai, d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà, c'est le sosie vocal de Rai.
Juste sur l'évaluation, je voudrais quand même que qu'on dise un mot aussi de Cunha devant. Qu'est-ce que vous en pensez de Cunha, parce que c'est un neuf au Brésil, c'est toujours le poste un peu emblématique, le 10 aussi, mais enfin le 9. Cunha, c'est quoi, c'est chapeau 3,
on va dire qu'il se démène
à l'échelle brésilienne.
On va dire qu'il fait de son mieux, il se démène.
Écoute, il y a une image qui m'a frappé, c'est qu'il y avait R9 dans la tribune, et quand tu vois Cunha,
Bebeto aussi qui était là.
Ouais, Bebeto, effectivement, et donc tu as tout en deux images, tu avais toute la fossé qui séparait les générations.
Tu sais qu'il y a une des plus belles équipes du Brésil de l'histoire qui n'avait pas de 9, c'est celle de 82. Celle de 82, elle a un 9 qui est franchement un vrai bidon. À côté, Cunha, c'est Ballon d'Or. Et ils avaient un vrai problème. Ils n'avaient pas de gardien, ils n'avaient pas de 9. Voilà, pour l'anecdote. Et c'était une des plus belles, parce que c'est celle de Socrates, Zico, Junior. Enfin, c'était une équipe absolument fantastique, quoi. EDR.
Sauf que là, le problème autour de Matheus Cunha, c'est que, à part Vinicius, c'est un peu compliqué. C'est vrai que Matheus Cunha, bon, ça reste un bon joueur, hein, mais c'est mieux que Igor Thiago, déjà, qui est sur le banc. Ouais. Donc,
pour ça, il a gagné aussi sa par rapport place, à ça. Ouais.
Exactement. Donc, c'est sans doute lui qui va jouer les matchs maintenant. Après, quand ça va être vraiment dur, est-ce que c'est lui qui va faire la différence? Parce que c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, encore plus d'un numéro 9 au Brésil. Ils ont eu l'habitude. Et là, j'ai pas l'impression qu'il soit en capacité, lui, de porter cette équipe du Brésil.
Il s'appelait Serginho, le numéro 9 de 82.
Absolument.
Il y avait un autre attaquant qui s'appelait Roberto Dinamite.
Exact, je me souviens de celui-là.
Dans la sélection, il jouait pas beaucoup. Et moi, quand j'étais petit, il y avait un nom qui me fascinait, c'était le sélectionneur.
Le
plan de coupe avec Télé Santana, j'avais l'impression d'être dans un feuilleton américain.
Il s'appelait Télé, c'est vrai que c'est un prénom un peu
étonnant.